Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
chers téléspectateurs, chers amis, bienvenue pour notre émission L'Unité universelle parle, la parole de l'Esprit créateur universel. Nous vous saluons chaleureusement pour la sixième partie de cette série, au cours de laquelle, comme lors des autres parties, nous allons faire une lecture du livre portant le même titre. Il s'agit d'une œuvre cosmique de formation et d'apprentissage donnée à l'école de la sagesse divine, basée sur des entretiens avec Gabriel, la prophétesse et messagère de Dieu à notre époque. Cette œuvre nous ouvre les yeux sur la réalité spirituelle de la vie, c'est-à-dire sur la véritable réalité, et nous permet, pour ainsi dire, de jeter un coup d'œil par la porte à peine entrouverte de la création à sept dimensions du royaume de Dieu qui, en fin de compte, est notre patrie éternelle à tous. Cette œuvre nous apprend et nous amène pas à pas à en faire nous-mêmes l'expérience que les êtres humains, tout comme tous les autres êtres vivants et formes de vie, les animaux, les végétaux et les minéraux, sont issus du souffle de Dieu et sont une partie de la grande famille de Dieu. Chers amis, en entendant le mot « Dieu », certains ont parfois tendance à réagir de manière ambivalente, voire avec méfiance. C'est la raison pour laquelle nous aimerions, dès à présent, vous assurer que tout ce que vous allez entendre à propos de Dieu au cours de cette émission n'a rien en commun avec l'image forgée par les églises institutionnelles d'un Dieu punissant qui s'entoure de mystères. Il est question ici de l'intelligence primordiale, de la force créatrice de l'éternel qui agit dans l'infini tout entier à travers les lois universelles. Nous pourrions ajouter que Dieu n'a rien à voir avec une religion extérieure. Il est l'esprit de l'infini, la parole de l'infini en tout être, en toute forme de vie, ainsi qu'en tous les êtres divins, les êtres spirituels. Et lui, qui est la vie universelle, se trouve au plus profond de toute âme, qu'elle soit incarnée ou non. Avant de poursuivre notre lecture, rappelons-nous en quelques mots les explications données à la fin de l'émission précédente. Les programmes de l'être humain dirigés contre l'amour de Dieu et du prochain ont fait en sorte qu'une grande partie de l'humanité s'est détournée de la gigantesque unité, de l'unité universelle qui parle, de la parole de l'Esprit créateur universel, avec toutes les conséquences négatives que cela implique. Chers amis, la suite de notre lecture nous montre les conséquences d'un tel comportement et répond à la question « Que faire à partir de ce constat ?»
En se détournant de ce qui est divin, en niant, plus ou moins selon les individus, tout ce qui est élevé et qui est finalement en nous, dans l'homme, au plus profond de notre âme, l'homme s'est retiré de la communication véritable et profonde avec l'infini, avec tous les êtres de l'existence pure et avec Dieu. L'homme ainsi assombri, chargé une partie de son âme, une partie de sa structure spirituelle composée de particules. Par la volonté propre qui dit « je veux », plus d'un s'est livré à l'adversaire, pour ne pas dire « s'est vendu à lui ». Si nous voulons quelque chose, c'est que nous ne l'avons pas. Ce que nous n'avons pas, nous ne pouvons pas le cerner, pas le comprendre. Et ce que nous n'avons pas encore cerné, pas compris, nous conduit à l'asservissement, nous conduit à nous vendre à d'autres.
Nous devrions tous les jours prendre davantage conscience de qui nous sommes dans l'Esprit de Dieu, notre Père céleste, et nous comporter en conséquence. En Dieu, notre Père éternel, nous sommes des fils et des filles de Dieu, des êtres spirituels purs. Notre corps spirituel est enveloppé de nos pensées, paroles et actes erronés, c'est-à-dire opposés à Dieu, par les cinq composantes qui, comme nous l'avons entendu dans l'émission précédente, peuvent contenir des explosifs qui nous atteindront. Les choses étant ainsi, nous devrions le plus rapidement possible prendre le chemin du retour et nous purifier des aspects négatifs dont nous nous sommes chargés et que nous avons éventuellement aussi imposés à d'autres personnes. Nous pourrions chaque jour faire le bilan de notre comportement et prendre conscience de nos infractions, plus ou moins importantes, à la loi de Dieu, ainsi que de ce qu'elles ont éventuellement comme conséquence. Il s'agit souvent de vieilles et mauvaises habitudes, ainsi que de vices et défauts anciens, le tout pouvant aller jusqu'à la méchanceté. Défaisons-nous de ce qui finalement nous a servi et nous pousse littéralement dans les bras de l'adversaire.
Nous devrions tous les jours nous demander « Est-ce que ce qui me préoccupe maintenant correspond à la volonté de Dieu ?» Nous sommes finalement tous les jours confrontés à la question « Est-ce qu'en fait je veux accomplir la volonté de Dieu ?» Si oui, je dois alors me purifier en reconnaissant les aspects négatifs qui sont encore en moi et en les mettant en ordre. Cette question essentielle revient régulièrement. Si je mets en ordre et ne refais plus les choses négatives qui m'ont souvent servi de force motrice, qui serais-je encore ? Quel nouveau programme je me donne pour remplacer cela ? Par exemple, je suis plus libre, plus heureux, je peux mieux me concentrer, j'accomplis mon travail beaucoup plus facilement, j'apprends à écouter mon prochain afin de mieux le comprendre, j'ai une communication plus proche avec le monde animal et végétal, et beaucoup d'autres aspects encore.
Die Tier- und Pflanzenwelt kommt mir näher und.
Jesus der Christus sagte sinngemäß.
Jésus le Christ a dit à peu près en ces termes: Devenez parfait comme votre Père dans les cieux est parfait. La seule chose qui importe est donc de retourner à l'origine qui est en nous. Avec le temps, nous comprendrons mieux ce que Jésus de Nazareth a enseigné lorsqu'il a dit « Le royaume de Dieu est en vous ». En tant qu'essence, le royaume de Dieu est le noyau central dans le corps spirituel divin. Lorsque le noyau central est dégagé de ce qui le recouvre, nos sensations, nos sentiments et pensées sont pour ainsi dire propres. Ils correspondent à la volonté de Dieu. Nos paroles sont bienveillantes et nos actes en accord avec la loi divine. Si notre corps s'est purifié de tous les résidus égocentriques, alors notre cerveau en a aussi profité. Plus nous purifions, mettons en ordre nos aspects négatifs, plus notre âme se purifie. Il en résulte que nous entrons alors progressivement en contact avec la vie supérieure.
Chers amis, nous entamons maintenant un nouveau chapitre dont le titre est « Le souffle de Dieu, la loi universelle, l'éther de lumière ». Le souffle, la vie éternelle et omniprésente, c'est Dieu, la loi universelle, la force de vie universelle. C'est l'éther de lumière dans lequel sont incorporées toutes les formes d'existence divine. L'éther de lumière est la vie universelle, le souffle de Dieu que nous, les êtres humains, respirons également, ainsi que tous les animaux et les végétaux, conformément à la vie qui est présente dans la densité matérielle. Si nous fermons la bouche et nous bouchons en même temps le nez, nous ne respirons plus. Pourquoi ? Parce que la force vitale, le souffle divin, contenu dans la respiration, ne parvient plus dans notre corps. L'homme appelle respiration le fait d'inspirer de l'air ou de l'oxygène. Cependant, le souffle de Dieu, la vie, La force vitale est en tout. D'une part, la force vitale, le souffle de Dieu, approvisionne tous les éléments du corps physique par l'intermédiaire de la respiration, et d'autre part, par l'intermédiaire de la terre-mère, Dieu, le Créateur éternel, offre leur nourriture aux hommes ainsi qu'aux animaux et aux végétaux. La vie omniprésente qui s'écoule vers toutes les créatures de la terre, c'est toujours l'amour de Dieu.
Dans l'univers tout entier, y compris dans la matière, l'Éternel agit à travers ses quatre forces primordiales et les trois forces de ses attributs dont l'homme fait rarement mention. L'esprit de l'unité nous rappelle régulièrement que les quatre forces primordiales sont les forces conceptrices et créatrices de l'infini. La science donne aux quatre forces primordiales de l'existence éternelle pure des noms qui les définissent en fonction d'une certaine échelle de valeur et de leur volume d'énergie. Cependant, il s'agit toujours de l'esprit universel, de l'action de l'un universel divin pour ses enfants, pour la terre-mère, le monde des minéraux, des végétaux et des animaux.
L'homme est habitué à penser qu'il va de soi, qu'il est ce dont il a besoin pour vivre sur Terre, la respiration, l'air, l'oxygène. Pourtant, c'est encore lui, l'esprit unique, l'un universel, l'amour de Dieu, notre Père céleste, qui nous permet aussi de vivre dans le temporel, afin que nous reconnaissions la vie qui est universelle et retrouvions notre conscience véritable afin de retourner dans l'éternité.
Le souffle de Dieu est l'éther de lumière inépuisable, la vie de toute éternité. Dans le berceau de la conception et de la création, le souffle de Dieu stimule la création des formes de vie spirituelles, du commencement jusqu'à la filiation spirituelle, au principe Père-Mère. Lorsque l'Éternel, la force primordiale supérieure, l'un universel, insuffle un atome spirituel qui se trouve dans le berceau de la conception et de la création, dans les quatre plans de développement qui mènent à la filiation divine, et le stimule ainsi à l'évolution, il commence alors à prendre forme dans les règnes minéraux. Les premières forces minérales stimulées par le souffle de Dieu afin de se développer vers la filiation divine portent en elles toutes les forces de l'infini. Le nom de l'enfant spirituel en devenir, le couple de duo, c'est-à-dire le couple de parents spirituels, la mentalité de l'enfant, mais également toutes les symphonies de l'univers, telles que les couleurs, les parfums et les sons. Toutes les forces universelles sont présentes en chacune des formes minérales en devenir.
Revenons au souffle de Dieu que les hommes, mais également les animaux, respirent et qui s'écoule vers les végétaux. Oui, l'infini tout entier est empli de son souffle. Tout est énergie. La substance porteuse de l'existence éternelle pure est composée des atomes inépuisables de l'éther de lumière. Le noyau atomique de tous les types d'atomes de l'infini est composé de la vibration suprême, celle de l'éther de lumière de la bonté, de l'amour et de la douceur. Ces trois forces des attributs de Dieu sont contenues dans l'amour, qui est la force de conception et de création de l'un universel, la plus élevée qui soit. Les quatre forces primordiales, les forces de conception et de création de l'ordre divin, de sa volonté, de sa sagesse et de sa rectitude, c'est-à-dire de sa justice, gravitent autour du noyau atomique, appelé également noyau originel.
Il est très difficile d'exprimer dans notre vocabulaire comment les énergies de conception et de création agissent dans les atomes de l'éther. Du fait que tout est contenu en tout, chacune des quatre forces atomiques de création contient aussi les trois forces des attributs de Dieu. C'est la vie en germination, dans le noyau atomique et dans toutes les forces de création. Nous ne nommerons ici que sommairement les principaux atomes de l'éther. Dans notre vocabulaire, ils s'appellent atomes de fécondité ou atomes collectifs, les atomes porteurs ou atomes stabilisateurs, les atomes de création ou atomes de formation, ainsi que les atomes de développement ou atomes d'unification.
C'est toujours le noyau atomique spirituel, la bonté, l'amour et la douceur contenus dans l'amour universel, le Dieu Père-Mère, qui impulse toute vie. Également la création des formes divines. Celui qui est infini agit dans l'infini à travers les quatre forces fondamentales. Cependant, comme déjà évoqué, l'amour, le noyau primordial, dont la vibration est la plus intense qui soit, est toujours la mesure et l'efficience dans toutes les forces existantes de l'infini tout entier. Le « que cela soit », le souffle de Dieu, est la force de l'amour de Dieu et du prochain qui se poursuit jusque dans la filiation spirituelle divine. L'enfant spirituel qui se développe pour devenir un être spirituel mature mûrit dans la dualité de ses parents spirituels, dans la grande famille du Dieu Père-Mère.
Liebe Mitmenschen,
chers amis, il y a une question que vous vous posez certainement. Comment peut-on se représenter une naissance dans les plans spirituels? Lisons ce que dit notre livre à ce sujet. Une comparaison pourrait nous aider à mieux comprendre le « que cela soit » spirituel divin. Que contient l'ovule non fécondé d'une mère chez les êtres humains? Les caractéristiques, le patrimoine génétique de la mère. Par l'acte de procréation, s'y ajoute le patrimoine génétique du père. Ces deux patrimoines se fondent en une cellule qui entre alors en activité. Nous pourrions dire qu'elle commence son évolution.
Revenons au principe divin, donner et recevoir. L'amour est la force qui, dans un atome spirituel spécifique, stimule le que cela soit, qui conduit à la filiation divine. Dans le que cela soit, dans l'atome spirituel spécifique qui a été insufflé, se trouvent déjà les dispositions de l'enfant spirituel, car, tel que nous l'avons entendu, tout est contenu en tout. L'ovule humain fécondé contient lui aussi déjà les dispositions de l'enfant humain. L'ovule fécondé se développe et devient un embryon qui mûrit dans le ventre de la mère pour devenir progressivement un enfant. Sur les plans d'évolution divin, qui constituent le corps donnant la naissance spirituelle des formes de vie éthériques, c'est-à-dire de substances fines, se développent jusqu'à ce qu'elles deviennent un être de la nature qui prélude la naissance de l'enfant spirituel à travers le couple de duo.
Regarder derrière la porte spirituelle à peine entrebâillée peut nous révéler beaucoup de choses si nous repensons au développement d'un enfant humain dans le corps de sa mère. Que peut-on observer dans l'utérus de la mère, par exemple, par une échographie? On peut voir que l'ovule s'est divisé et qu'à la suite d'une série de nouvelles divisions, s'est développé un embryon dont la forme extérieure ressemble à celle d'un embryon tel que nous les connaissons aussi dans le monde animal. L'embryon continue à se développer, devient un fœtus dont les traits prennent alors une forme de plus en plus humaine jusqu'à ce que nous puissions distinguer un être humain dans ce petit être en devenir.
Et comment cela se passe-t-il pour les êtres spirituels en devenir? Une fois qu'un être a parcouru toutes les étapes d'évolution, il est élevé au niveau d'enfant spirituel. En tant qu'enfant spirituel, il doit alors activer encore une fois tout ce qu'il a déjà acquis. Exprimé dans notre vocabulaire, on pourrait dire que l'enfant spirituel va, pour ainsi dire, à l'école cosmique divine, dans les quatre plans d'évolution, pour activer en lui les forces d'évolution pour, en tant qu'être spirituel, être en communication avec toutes les formes de vie de l'infini et tous les plans célestes, tous les astres de l'existence pure. C'est à partir de cela que se développe l'image qui s'ouvre dans le noyau central et qui permet de contempler tous les détails de l'infini. Le noyau central, le cœur primordial, a alors tout en lui la totalité du rayonnement du royaume de Dieu.
Das gesamte Strahlungsvolumen des Reiches Gottes. Das Leben,
la vie dans l'Esprit de Dieu, la vie de l'existence pure éternelle, est une communication universelle dépassant tout ce que nous pouvons imaginer en tant qu'être humain. L'enfant spirituel apprend donc à développer et à acquérir complètement le principe de communication universelle dans son noyau central, sous forme d'images, de couleurs, de formes et de sons. C'est ainsi que l'enfant spirituel recueille l'héritage de l'infini et mûrit jusqu'à devenir un être spirituel parfait.
Chers téléspectateurs, chers amis, cette émission touche à sa fin. Vous venez d'entendre une lecture tirée du livre « L'unité universelle parle », la parole de l'Esprit créateur universel, une œuvre cosmique de formation et d'apprentissage donnée à l'école de la sagesse divine. Aujourd'hui, nous avons pu prendre connaissance de lois et d'interactions spirituelles inconnues de l'humanité jusqu'alors, comme entre autres la vie omniprésente qu'est Dieu, la loi universelle, la force de vie universelle, ou encore l'éther de lumière dans lequel sont incorporées toutes les formes d'existence divine, mais aussi les différentes étapes de développement que traverse un être dans l'existence pure avant d'atteindre le stade d'évolution de l'enfant spirituel. Chers amis, tout cela pourrait nous amener à nous demander: si tout cela, c'est-à-dire la vie dans le royaume de Dieu, est en fait notre vie véritable, pourquoi sommes-nous des êtres humains qui vivent sur la Terre? Comment en sommes-nous arrivés là? C'est à ces questions que répondra notre prochaine émission lorsque nous lirons le chapitre intitulé « De la chute des êtres spirituels jusqu'aux êtres de matière grossière et densifiée, les hommes ». Nous nous réjouirions de vous retrouver à cette occasion. D'ici là, nous vous adressons une chaleureuse salutation en Dieu. Au revoir et à bientôt.